droits de l'homme, il n'y a pas d'égalité. Difficile à dévoluer en toute légalité. Ce que nous avons enduré, ils n'en ont pas la moindre idée. J'en ai perdu des années, mais j'ai conservé.
Bonjour et bienvenue dans l'émission « Joy au pays des droits de l'homme ». La Cour européenne des droits de l'homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Au cours de l'émission, nous avons évoqué des questions liées à la discrimination, à la liberté de religion et à la fin de vie, entre autres. La Convention européenne des droits de l'homme, à travers son protocole optionnel numéro 13, interdit la peine de mort dans les pays membres l'ayant ratifiée depuis 2002. Pour en parler, je reçois aujourd'hui un avocat pénaliste de Rouen qui défend des Français condamnés à la peine de mort à l'étranger. Maître Richard Cedillo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes titulaire d'un diplôme de droit comparé, option droit anglais et américain. D'où vient cet intérêt pour le droit comparé?
J'ai toujours trouvé ça absolument passionnant de comparer les systèmes de droit. Remarquer comment plusieurs systèmes, quoique très différents sur le fond, ont pour but, toutefois, de parvenir à un résultat à peu près équivalent. Si on compare, par exemple, le droit anglais et le droit français, il y a de très, très, très sensibles différences. Ce sont pourtant deux systèmes de droit démocratiques, avec des défauts, bien sûr, mais qui sont tout de même appliqués dans deux grandes démocraties, et qui ont, malgré tout, pour but de parvenir au même résultat, même si le chemin est différent. C'est un petit peu comme l'accès à Dieu, si vous voulez. Les juifs et les catholiques n'ont pas le même chemin, mais ont, et l'un et l'autre, le désir d'aller jusqu'à Dieu.
Et donc, j'avais envie de vous demander, quelles sont les différences principales, selon vous, entre la common law et le droit civil?
Alors, il y a beaucoup de différences. On a l'habitude de dire que dans le système de civil law, tel qu'on le connaît en France, le droit vient du juge et descend vers les parties. Alors que dans les systèmes de common law, le droit vient des parties et monte vers le juge. Je m'explique. Dans nos systèmes, en France, en matière pénale par exemple, s'il existe une incertitude sur un point technique, le juge peut désigner un expert. L'expert dépose un rapport, le rapport est envoyé aux parties qui peuvent le critiquer. Donc vous voyez, l'initiative vient du juge, peut-être suscitée par les parties, mais elle vient tout de même du juge. Et ensuite, les parties s'emparent de ce rapport qui aura été rédigé d'une façon contradictoire, évidemment. Tandis que dans les systèmes de common law, il n'y a pas d'expertise judiciaire, chaque partie embauche, entre guillemets, ses propres experts qui viennent émettre des opinions. Il peut d'ailleurs y avoir de longues querelles d'experts, puisque l'expert de l'un peut être en désaccord avec l'expert de l'autre, et il n'appartiendra pas au juge de désigner un expert pour trancher. Vous voyez ? Alors, chaque système a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient peut-être de notre système, c'est de donner un rôle moindre aux parties. L'inconvénient du système de common law, c'est que ce mode de fonctionnement peut coûter très cher et qu'on voit bien qu'il est tout de même source de très grandes injustices au plan financier, le système américain étant évidemment un système tout à fait caricatural à cet égard.
Oui, tout à fait. Alors, vous êtes régulièrement consulté par les organisations internationales en qualité d'expert juridique. Pouvez-vous nous décrire ce rôle d'expert?
Oui, un certain nombre de pays qui ont notamment le désir d'adopter des lois ou de réformer un système qui ne leur convient plus peuvent demander l'appui d'experts internationaux à l'occasion des réformes envisagées. J'ai pu participer il y a maintenant des années à la rédaction du projet de code pénal des mineurs au Kosovo, à une époque où le Kosovo désirant rompre avec des pratiques révolues, souhaitait réécrire ce texte. J'ai été consulté par l'ONU sur une réforme du droit militaire au Congo. sur le droit des mineurs en Albanie et dans d'autres États. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé au Kyrgyzstan avec une de mes amies qui est avocate au Mans et qui est parfaitement russophone, afin d'aider les avocats à envisager l'adoption, ou en tout cas la suggestion d'adoption de textes destinés à protéger la profession. Voilà, c'est peut-être des domaines assez variés.
Oui, tout à fait. Alors, je voulais vous demander aussi, en quoi consiste le travail du comité scientifique de l'Institut des droits de l'homme et de la paix, dont vous êtes membre ?
Alors, le comité des droits de l'homme et de la paix, qui siège à Caen, est un institut qui, comme son nom l'indique, assure la promotion des droits de l'homme, et en France, notamment avec un grand souci d'éducation de la jeunesse, d'ouverture de la jeunesse à ces questions, et avec également des interventions à l'étranger, l'organisation de concours de plaidoirie, en Mauritanie par exemple. Il y a longtemps eu un concours à Jérusalem. Alors malheureusement, la finalité du concours n'a jamais été tout à fait atteinte, parce que le but était de réunir de jeunes avocats palestiniens et israéliens, notamment, pas uniquement, mais notamment, et ça a toujours été très compliqué. Voilà, malheureusement. Donc, ce but-là, destiné à créer une manifestation de fraternité, n'a jamais été atteint. C'est un peu la difficulté, je crois. D'autres concours seront créés, et puis il y a des manifestations d'intérêt à Madagascar et dans d'autres États. C'est un très très bel institut.
Oui, ça, j'en avais jamais entendu parler avant, mais effectivement, ici à Strasbourg, nous avons une organisation qui s'appelle Regarde Enfants, et dont j'étais un temps bénévole. Et l'idée aussi, c'est d'éduquer la jeunesse aux droits de l'homme. Et nous avons créé à cette fin un jeu sur les droits de l'homme, un jeu de société et qui
Alors, est très éducatif. C'est effectivement très 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 important, vous savez, on s'en rend compte, parce que je pense que toutes ces grandes idées que nous défendons, elles ne sont pas innées, on s'en rend compte. Et qu'il y a, j'entendais, vous voyez, c'était hier, je crois, sur France Inter, les résultats d'un sondage qui a été réalisé dans les écoles, et on apprend avec une certaine consternation que l'homophobie est aujourd'hui un sentiment qui est relativement répandu. Et que la jeunesse ne parvient pas à dépasser ce sentiment tout à fait détestable. La question de la peine de mort aussi est une question qui est très 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 préoccupante, parce qu'on se rend compte que parmi la jeunesse, la question de l'abolition n'est pas non plus une chose innée, loin de là. Il y a encore beaucoup de travail à faire, et tant mieux, parce que c'est passionnant, et parce qu'on se rend compte aussi que les jeunes gens sont évidemment capables de réfléchir, et que lorsqu'on leur explique en quoi la peine de mort est constitue un traitement inhumain et dégradant, ils le comprennent très rapidement.
Alors, ça m'amène à ma prochaine question. D'où vous êtes venue cette passion pour défendre contre la peine de mort?
J'avais évidemment entendu parler d'un certain nombre de procédures tout à fait iniques à l'issue desquelles des accusés avaient été condamnés à mort. Et puis j'ai eu l'occasion, il y a maintenant longtemps, de participer à la création au Burundi, à Bujumbura, d'un cabinet d'avocats dont la création avait été suscitée par l'association Avocats sans frontières Belgique. Un cabinet d'avocats qui a apporté son soutien aux présumés génocidaires et aux victimes. Après le génocide qui avait été commis au Burundi en 1993, et donc un an avant celui du Rwanda. C'est un cabinet qui avait été créé parce que c'était compliqué pour le barreau burundais à l'époque de prendre en charge la défense de l'intégralité de ces détenus et de ces victimes, qui étaient évidemment extrêmement nombreux. Et j'avais eu l'occasion, même si ça n'était pas à proprement parler dans notre mandat, j'avais eu l'occasion de défendre un jeune homme qui encourait la peine de mort devant un tribunal militaire. C'était un jeune soldat qui, à l'occasion d'une permission, avait trop bu, et lorsque son camarade, lui-même soldat, l'avait invité à regagner la caserne, à défaut de quoi ils auraient été considérés comme déserteurs, il s'était emporté, et il avait tiré, tout à fait involontairement en réalité, et il avait tué son camarade. Et c'était donc un homicide, à mon sens involontaire, mais il était poursuivi pour homicide. Et donc, il encourait la peine de mort, et à l'époque, les juridictions militaires prononçaient assez fréquemment la peine de mort, d'une part, et les exécutions étaient mises en œuvre, d'autre part. Donc l'enjeu était important. Et je voyais, je me souviens encore de ce très jeune homme, qui c'était vraiment un gosse très touchant, comprenant assez mal, finalement, ce qui lui arrivait. Et je m'étais rendu compte à cette occasion à quel point le rôle de l'avocat était important, vous voyez, parce que finalement, j'ai dû plaider, je ne sais pas, peut-être trois quarts d'heure pendant lesquels j'ai dû convaincre le tribunal militaire, composé donc de militaires qui ne sont pas des juristes, hein, même s'ils ont une petite expérience de la justice militaire. Et on dit, vous savez, que la justice militaire est à la justice, que la musique militaire est à la musique. Je m'étais rendu compte que, voilà, je n'avais que 45 minutes de mots pour sauver la vie d'un homme. Et je m'étais rendu compte à quel point cette vie pouvait tenir à un fil, à un mot. Et voilà, et ça m'avait beaucoup touché. Le tribunal m'avait suivi, avait requalifié les faits, avait considéré qu'effectivement l'homicide était involontaire et donc il n'encourait plus la peine de mort et il avait été condamné, si ma mémoire est bonne, à une peine de 5 ans d'emprisonnement. Ce qui était déjà beaucoup évidemment, mais sa vie était sauve. Et j'avais réalisé à quel point le rôle de l'avocat était absolument essentiel, à quel point cette peine était barbare, à quel point elle pouvait être prononcée dans des conditions expéditives, et à quel point le rôle de l'avocat était important.
Effectivement, on sent votre émotion.
Oui, oui, c'est un souvenir qui me touche beaucoup, vous voyez, parce que c'était moi, ça aurait pu en être un autre. Hein, mais c'est là qu'on sent tout de même... Vous savez, un jour, à l'occasion d'une discussion avec Robert Badinter, qui évidemment suscite toute mon admiration, il m'avait dit, vous savez... Le rôle des ONG, le rôle des associations, le rôle des militants contre la peine de mort, il est essentiel. Il est très important. Et j'en suis moi-même extrêmement convaincu. Mais il m'avait dit, pour comprendre ce que c'est, pour nouer cette espèce de sinistre intimité avec la peine de mort, il faut être avocat. Pour comprendre toute sa dimension.
L'affaire dont vous êtes peut-être le plus connu, c'est celle de Atlaoui, qui a été condamné à la peine de mort en Indonésie. Donc, sans rentrer sur le fond du dossier, je voulais vous demander que lorsqu'un avocat défend un client dans un pays étranger, comme l'Indonésie, comment fait-il pour connaître le droit local?
Alors, tout dépend du rôle qui est assigné à l'avocat. Dans le cadre du dossier Monsieur Atlaoui, je n'ai pas plaidé. D'abord, je suis devenu son avocat alors qu'il était déjà condamné à mort. Et mon rôle a été un rôle politique, un peu médiatique, j'allais dire un peu diplomatique, en tout cas de relation avec les autorités diplomatiques. Mais il y a une avocate sur place qui prépare les actes, que je n'aurais pas été capable de préparer, évidemment. Même si le rôle qui a été le mien, je crois, a été véritablement essentiel, ça n'a pas été complètement un rôle judiciaire, évidemment. J'ai défendu l'an dernier, et on a obtenu son acquittement au mois de juin, un jeune homme qui était accusé de meurtre aux Seychelles. Donc je suis allé 4 fois aux Seychelles, j'ai mené l'enquête, parce que le système est un système de common law, donc l'avocat participe à l'enquête. J'ai mené l'enquête, j'ai énormément travaillé. Là, j'ai vraiment fait tout le travail préparatoire, avec les experts, avec ça. Ça a été un travail considérable pendant un an. Mais en revanche, je n'ai pas plaidé non plus, parce que je n'étais pas autorisé à plaider. Aux Seychelles, seul un avocat exerçant dans un pays de common law est autorisé à plaider. Bon, mais c'était pas plus mal. J'avais fait tout le travail, j'étais très content de l'avoir fait, et de remettre à un avocat qui allait plaider le fruit de cette année de travail. Il était d'ailleurs très content de recevoir toutes les preuves que je lui apportais. Donc vous voyez, d'un dossier à l'autre, les choses peuvent considérablement varier. Par contre, j'ai beaucoup plaidé en Afrique, notamment dans les pays d'Afrique francophone. Et le droit dans ces pays est très souvent très inspiré de notre droit, de sorte qu'il n'est pas très compliqué pour un avocat français de s'y plonger.
Ok. Donc, comme j'ai dit dans l'introduction, les Européens sont protégés par le protocole optionnel numéro 13. Donc, je voulais vous demander quel est le rôle de la Convention européenne des droits de l'homme, et est-ce qu'elle peut protéger les ressortissants européens qui sont condamnés dans les pays extra-européens?
Oui, alors, c'est un premier arrêt avait été rendu, qui est maintenant ancien, par la Cour européenne des droits de l'homme, à une époque où le protocole facultatif n'était pas encore ratifié par tous les États membres du Conseil de l'Europe, qui concernait un ressortissant allemand arrêté en Angleterre et dont l'extradition était demandée par les États-Unis. Et la Cour avait été saisie en urgence parce que les Anglais étaient prêts à l'extrader. Le gouvernement allemand, si ma mémoire est bonne, était intervenu en qualité d'amicus curiae devant la Cour pour faire valoir ses propres observations. Et la Cour était un petit peu embarrassée à l'époque, parce que dans la mesure où la Convention européenne des droits de l'homme n'interdit pas en elle-même la peine de mort, seul le protocole facultatif, les deux protocoles facultatifs le font, la Cour s'en était tirée par une pirouette.
L'article 3.
Voilà, elle avait dit, les conditions de détention dans le pénitencier de Mecklenburg, le pénitencier dans lequel cet homme allait être détenu, sont constitutives de traitements inhumains et dégradants. Donc nous ne pouvons pas renvoyer un homme, quelle que soit l'horreur du crime qu'il a commis, en sachant qu'il va subir un traitement inhumain et dégradant dans le couloir de la mort de ce pénitencier. D'ailleurs, vous voyez, cet après-midi, je dois faire une intervention devant les ambassadeurs du Conseil de l'Europe sur la peine de mort. Je pense aujourd'hui, très sincèrement, que le meilleur moyen d'assurer l'impunité du criminel, c'est de maintenir la peine de mort. Si certains États maintiennent la peine de mort, ils protègent les criminels. Pourquoi ? Parce que l'abolition, c'est évidemment le sens de l'histoire. Le nombre de pays qui abolissent la peine de mort ne cesse d'augmenter. Ça n'arrête pas. La Malaisie, hier, a encore annoncé que pour un certain nombre de crimes, la peine de mort n'était plus obligatoire. Ça n'est pas une abolition, mais c'est un nouveau progrès. Et très très régulièrement, on apprend soit qu'un pays a aboli, soit que il va rompre plus ou moins définitivement avec cette peine barbare. Ce qui veut dire que celui qui commet un crime, je prends l'exemple d'un Américain, un Texan, qui commet un crime au Texas, sur des victimes texanes, un crime monstrueux, qui assassine, qui tue 20 enfants dans une école. Il a un tout petit peu préparé la suite de ce crime, et aujourd'hui les gens sont de plus en plus informés. Juste après avoir commis le crime, et avant d'être identifié, il s'envole pour la France, l'Italie, la Belgique, l'Angleterre ou un autre grand État abolitionniste, on ne peut pas l'extrader et on ne peut pas le juger. Si l'État était en France, par exemple, la France ne l'extradera pas s'il encourt la peine de mort. Et aucune grande démocratie ne le fera. Et par ailleurs, la France ne peut pas le juger parce que il est exempt, les victimes sont texanes et le crime a eu lieu au Texas. Le juge français n'a aucune compétence. Il y a un certain nombre de compétences universelles. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, notamment en matière de torture. Mais là, il n'y a pas de compétences universelles. Donc le juge français ne peut pas le juger, il ne peut pas l'extrader. Donc aujourd'hui, si vous voulez offrir l'impunité aux criminels, maintenez la peine de mort.
Okay. Vous avez anticipé ma prochaine question, ce qui était sur les ressortissants non européens. Et effectivement, vous avez répondu qu'on ne peut pas les extrader, notamment à cause de l'article 3 qui interdit le traitement inhumain et dégradant. Alors, j'ai une autre question plus large. Quels sont les pays aujourd'hui qui appliquent la peine capitale le plus souvent ?
Alors, évidemment, le champion en toute catégorie, c'est la Chine, mais le sinistre champion en considération du nombre d'habitants, c'est l'Iran. Et le nombre d'exécutions, évidemment, en Iran a considérablement augmenté l'année dernière, avant même le début de la révolution. Et on peut craindre des chiffres sinistres, évidemment, en 2023, puisqu'il y a déjà eu un nombre important d'exécutions, il y en aura d'autres, parce que l'Iran utilise, mais comme beaucoup d'autres États d'ailleurs, l'Iran utilise la peine de mort comme une arme de terreur. C'est ni plus ni moins une arme de terreur. L'idée, c'est de faire peur à la population. Et alors souvent, vous savez, la peine de mort s'accompagne d'une espèce de sinistre cérémonial. On pend les gens, on maintient leur corps pendu pendant plusieurs jours afin que tout le monde les voit. C'est quelque chose d'absolument épouvantable. Épouvantable. La peine de mort, on le sait, hein, frappe toujours les plus pauvres, les plus démunis, les plus faibles, à moins qu'elle ne soit une arme politique ou de terreur. C'est dire à quel point ce châtiment est d'une injustice incroyable. Il y a une très grande avocate américaine qui s'appelle Robin Maher, qui a défendu un grand nombre d'accusés qui encouraient la peine de mort ou de condamnés à mort. Et un jour, elle m'a dit, bien sûr, il y a une injustice raciale, incontestablement. Bien sûr, à proportion, il y a plus de Noirs ou d'Hispaniques qui sont condamnés à mort que de Blancs aux États-Unis. Mais elle m'a dit, l'injustice, elle n'est pas tellement là. L'injustice, elle est financière. Il n'y a pas de riches dans les couloirs de la mort. Elle m'a même dit, il n'y a pas d'O.J. Simpson, du nom de ce grand sportif, qui avait été acquitté, vous savez, du meurtre de sa femme, acquitté au pénal et condamné au civil. Elle me dit, il n'y a pas d'O.J. Simpson. C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens de payer les meilleurs avocats s'en sortent. Par contre, celui qui n'a aucun moyen, il n'y a pas longtemps, il y a un mois à peu près, un mois et demi, est mort au Texas, Hank Skinner. Hank était détenu depuis 30 ans à peu près, condamné à mort, et après avoir épuisé tous les recours, il allait être exécuté. Enfin, une date d'exécution était prévue pour le mois de septembre. Son épouse est française, d'un courage et d'une intelligence exceptionnelle. Elle s'est battue à ses côtés jusqu'au bout. Tout le monde sait qu'Hank Skinner est innocent. Tout le monde le sait. Mais pour des raisons électoralistes notamment, parce que le procureur est élu au Texas, il n'a jamais été question de revenir sur cette décision, et on a mis des bâtons dans les roues de sa défense pour ne pas lui permettre de faire valoir tous les arguments qui devaient l'être. Il est mort de maladie avant d'être exécuté, alors qu'il aurait dû être libéré depuis des années. Et il fait partie de tous ceux qui ont été condamnés dans des conditions quasiment expéditives et pour plaire à une partie malsaine de l'opinion publique.
Ok. Pour rester sur le sujet des États-Unis, quels sont les États qui appliquent la peine de mort encore? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les lois « three strikes » c'est-à-dire en Californie, il y avait à un moment donné, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, « three strikes », c'est-à-dire que pour le troisième crime, quel qu'il soit, la peine de mort est automatique.
Oui. Alors, ça, vous me l'apprenez, je ne savais pas. Vous voyez, il y a effectivement un certain nombre d'États, le Texas étant le champion de toute catégorie de la peine de mort. Mais on voit, si vous voulez, c'est assez intéressant aussi la cartographie américaine, parce qu'on voit que les États les plus éduqués, et notamment la Nouvelle-Angleterre, le Nord-Est, sont des États très abolitionnistes, hein. Si vous parlez de la peine de mort à un New-Yorkais, il va dire « mais non, jamais ». Par contre, si vous parlez de la peine de mort au Texan qui descend de son cheval, il va dire « oui, bien sûr ». Je dis ça sans snobisme social, mais encore que je préfère les New-Yorkais aux Texans, a priori. Mais on voit bien que le niveau de l'éducation est très important. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut en parler dans les écoles le plus souvent possible, comme je le disais. Le système de la peine de mort, mandatory death penalty, est une chose qui est terrible. Lorsque le juge n'a pas le choix, lorsqu'il est tenu de prononcer la peine de mort, ça existe dans un certain nombre d'États, à raison de l'infraction qui a été commise, sans aucune latitude pour lui. Ça, c'est une chose. Donc vous me l'apprenez à propos de ce système en Californie que je ne connaissais pas. Mais c'est effectivement une chose terrible, parce que a priori, si on désigne des juges, c'est pour qu'ils puissent tout de même apprécier les circonstances de l'infraction. Si la peine devient obligatoire, après tout, pourquoi faire intervenir un juge ?
Effectivement. Alors ma dernière question, elle est sur le rôle de la communauté internationale. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour essayer de peser contre les pays qui maintiennent cette peine?
Alors, il y a expliquer, comme je le disais, qu'aujourd'hui, par ce jeu du refus d'extradition, maintenir la peine de mort, c'est le meilleur moyen d'assurer l'impunité du criminel. Ça, c'est probablement une première chose. Ensuite, nous devons continuer, et ça va être l'objet de la réunion à laquelle je vais participer au Conseil de l'Europe cet après-midi, continuer à expliquer encore et toujours pourquoi cette peine est inefficace et pourquoi elle participe à la violence. J'aime toujours rappeler que le taux de criminalité chez les mineurs est 40 fois supérieur au Texas qui pratique la peine de mort qu'en Toscane, qui, à l'époque où la Toscane était un État, a été le premier État moderne à abolir la peine de mort. C'est l'un des très nombreux exemples qui prouve à quel point la peine de mort est inefficace et qu'au contraire, habituellement, elle participe à la violence et qu'on a pu remarquer que lorsqu'un État abolit la peine de mort, généralement, le taux de criminalité diminue un peu. Je ne dirais pas de façon très conséquente, mais diminue un peu. En revanche, on voit bien, si vous voulez, que ce sont les sociétés les plus criminogènes qui pratiquent la peine de mort, hein, et que les grandes démocraties les plus calmes, on peut penser aux pays du Nord, par exemple, sont évidemment des pays qui n'ont jamais envisagé de la rétablir, jamais. Et j'ai perdu votre question, excusez-moi.
Le rôle de la communauté internationale, oui, pour faire pression.
Voilà. Alors, ensuite, il y a le moratoire qui est voté aux Nations Unies et le nombre d'États qui votent en faveur de ce moratoire et donc en faveur de l'arrêt total des exécutions est de plus en plus important. C'est une forme de pression aussi, de pression très 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 saine. Je souhaiterais c'est vrai, je rêve que les pays abolitionnistes qui ont récemment aboli jouent un rôle plus important. C'est très important de voir aujourd'hui des États, notamment certains États africains, parce qu'on peut penser que l'Afrique sera le prochain continent abolitionniste. On voit bien qu'il y a aujourd'hui des chefs d'État très courageux qui, même si leur opinion publique n'est pas forcément très favorable à l'abolition, empruntent ce chemin. Et je crois qu'il est très, très, très important que ces États portent aussi le message de l'abolition universelle. Il est porté, évidemment, par de grands pays abolitionnistes comme la France, l'Italie, la Belgique, souvent des pays d'Europe occidentale. Et c'est très bien. Mais je crois qu'il est vraiment très important qu'il soit aussi porté par ces nouveaux abolitionnistes. Tous les 3 ans, l'association Ensemble contre la peine de mort organise un congrès, le Congrès mondial contre la peine de mort, qui est un congrès de très 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 grande qualité et qui réunit de très, très très nombreux abolitionnistes à travers le monde, qui s'est tenu à Berlin l'année dernière. C'était le 8e congrès. Mis à part le 2e congrès qui s'est tenu à Montréal, ils se sont tous tenus en Europe. Alors c'est formidable. C'est formidable, évidemment. Strasbourg, le premier, Paris, Berlin, Genève, Madrid, Oslo, c'est très très bien, mais je rêve qu'on puisse organiser une fois le congrès mondial, qu'un pays nous invite, autre qu'un pays européen. Parce que l'abolition, elle n'est pas qu'européenne. Bien sûr, l'Europe a un rôle fondamental à jouer, fondamental, c'est certain. Mais il faut aussi réaliser qu'il y a d'autres continents qui sont des continents abolitionnistes. L'Amérique du Sud est pratiquement totalement abolitionniste. Je suis convaincu, comme je vous le disais, que l'Afrique sera assez prochainement complètement abolitionniste. Bon, qu'il reste certains pays problématiques, évidemment, mais avec lesquels nous allons lutter.
Merci d'être venu nous éclairer et merci surtout pour votre passion dans la matière. On termine sur une note musicale. Once in a lullaby.